Chapitre 47. Richard étudia la ville qui se nichait dans la grande vallée verdoyante. Ne voyant pas de soldats, il se tourna vers Owen.
C'est Witherton ?
À plat ventre, sur une excroissance rocheuse à la lisière de la forêt, le bandakar tendit le cou, plissa les yeux et hocha la tête. Richard s'attendait à quelque chose de plus grand.
« Je ne vois pas d'ennemis, »
dit-il en rampant à reculons. Owen l'imita. Une fois à l'abri sous le couvert des arbres, les deux hommes se relevèrent et s'époussetèrent.
« Les hommes de l'ordre sont le plus souvent en ville. Ils ne travaillent pas aux champs, vous savez. Ces parasites mangent ce que nous produisons et ils jouent au dé les objets de valeur qu'ils nous ont volés. Rien d'autre ne les intéresse. »
Owen s'empourpra de colère.
« La nuit, ils réquisitionnent nos femmes. » Le jour, il leur arrive de sortir surveiller les paysans, mais c'est très rare. Le soir, ils se contentent de compter les hommes qui reviennent des champs.
Bref, les soldats ne campaient plus à l'extérieur de la cité car ils étaient très attachés à leur petit confort. Ayant compris que personne ne leur opposerait de résistance, ils dormaient parmi les bandakars, sans craindre de se réveiller avec un couteau entre les omoplates. Le mur d'enceinte en bois de la ville bloquant la vue, Richard apercevait seulement le coin d'un bâtiment à travers les portes ouvertes. Il n'y avait pas de douves pour renforcer les défenses de la cité et pas de tertre artificiel non plus. Bref, si le mur pouvait tenir à l'écart les serres, voire repousser les assauts d'un vieil ours fatigué, il n'était sûrement pas assez solide pour résister à une attaque massive des forces de l'ordre impérial. Si les soudards avaient demandé qu'on leur ouvre les portes, ce n'était pas parce que la muraille leur semblait imprenable, mais depuis le début, l'ouverture des portes pour ces hommes était un délectable signe de soumission. De grandes zones de la vallée avaient été déboisées afin de laisser la place à des champs cultivés. Un peu partout, des branches d'arbres taillées tenaient lieu de poteaux aux enclos à bestiaux. Parmi les vaches et les taureaux, quelques moutons broutaient l'herbe déjà rase. Devant les poulaillers, des volailles picoraient en liberté. Une brise légère charriait jusqu'aux narines de Richard l'odeur de la terre fraîchement retournée, des fleurs sauvages et de l'herbe. Être revenu au niveau de la mer était un grand soulagement pour le sourcier, qui avait de plus en plus de mal à respirer. Et bien qu'il eût encore les os gelés, il sentait que la température ici était bien plus clémente. Richard jeta un dernier coup d'œil à la vallée, puis Owen et lui s'enfoncèrent dans la forêt pour aller rejoindre leurs compagnons. Les arbres étaient pour l'essentiel des hêtres, des érables, des chênes et des bouleaux, mais il y avait de ci de là des pins d'une hauteur impressionnante. Des oiseaux gazouillaient dans la frondaison et un écureuil, suivant des yeux les deux humains, débita sur leur passage un chapelet de pépiments incompréhensibles. Au cœur de cette forêt régnait une pénombre éternelle, sauf aux rares endroits où des rayons de soleil parvenaient à traverser les feuillages. Cessant de batailler contre les moustiques qui les harcelaient, la plupart des hommes se levèrent quand Owen et Richard entrèrent dans l'étrange clairière qu'ils avaient quittée quelques heures plus tôt. Ici, la lumière du soleil pénétrait à flots. Une rareté au plus profond d'une forêt si dense. Mais il y avait une explication très simple. Un très vieil érable géant avait été frappé par la foudre et s'était fendu en deux, entraînant des arbres dans sa chute, des deux côtés évidemment. Du coup, une trouée absolument pas naturelle laissait pénétrer les rayons. Callan sauta de la souche où elle était assise. La queue oscillant à toute vitesse, Betty fit la fête à Richard, qui la remercia en la caressant derrière les oreilles. D'autres bandakars sortirent de derrière les racines arrachées du sol de l'arbre géant. Après des années d'exposition aux intempéries, elles avaient pris une étrange couleur argentée. Les résistants d'Owen vinrent entourer Callan, Kara, Jensen et Tom. Ému, Richard regarda son armée au grand complet. La déclaration d'Hanson au sommet du col avait précipité les choses. Après l'avoir entendu, tous ses compagnons, soudain libérés d'une vie d'aveuglement, avaient clamé haut et fort qu'ils voulaient se rallier à l'Empire d'Aran et lutter contre les soudards de Jagang. Sans se consulter vraiment, ils avaient conclu que les soldats ennemis méritaient la mort, cette cause valant qu'eux-mêmes sacrifient éventuellement leur vie. Lorsque Tom baissa les yeux pour regarder Betty, qui revenait après avoir brouté quelques mauvaises herbes,
Richard remarqua que le front du colosse blond était trempé de sueur. Oubliant sa réserve légendaire, Kara s'éventait avec une poignée de grosses feuilles d'érable. Le sourcier voulut demander à ses amis pourquoi il transpirait ainsi par une journée plutôt frisquette. Puis il s'avisa qu'il frissonnait à cause du poison. Et la dernière fois que ça lui était arrivé, il avait frôlé la mort. Hanson et un autre résistant, John, ramassèrent leurs sacs. Ils avaient été désignés pour se glisser parmi les hommes qui rentreraient des champs à la tombée de la nuit. Une fois en ville, ils s'arrangeraient pour récupérer l'antidote.
« Je crois que je vais venir avec toi, Hanson, » dit Richard. « John, ça te dérange d'attendre ici avec les autres ?»«
Pas du tout, Seigneur Hall, mais vous n'avez aucune raison d'y aller. » Ce n'était pas un raid susceptible de finir en combat à mort, mais une discrète expédition visant à récupérer l'antidote. Les attaques contre l'ordre commenceraient après, quand Richard aurait vidé le précieux flacon.
« John a raison, » dit Kara. « Ils peuvent se débrouiller sans vous. »
Richard respirait de plus en plus mal et il devait en permanence se retenir de tousser.
« Je sais, mais j'aimerais jeter un coup d'œil en ville. »
Kara et Callan échangèrent un long regard.
« Si tu pars avec Hanson, » dit Jensen, « tu ne pourras pas emporter ton épée. »
« Ai-je dit que je voulais commencer une guerre ? J'ai juste envie d'aller voir. »
Callan approcha de son mari.
« Hanson et John peuvent explorer la ville et te faire un rapport détaillé. Pendant ce temps, tu te reposeras. Après tout, ils en auront à peine pour quelques heures. »«
C'est vrai, mais je n'ai pas envie d'attendre si longtemps. »
Richard vit dans les yeux de Callan qu'elle mesurait à quel point il souffrait. D'ailleurs, elle n'insista pas. Le sourcier retira son baudrier et le passa à l'épaule de sa compagne.
« Voilà, je te nomme sourcière de vérité. »
Acceptant le titre et les honneurs qui allaient avec, Callan plaqua les poings sur les hanches.
« Bon, jure de ne rien déclencher quand tu seras en ville. Ce n'est pas le plan, ne l'oublie pas. Hanson et toi serez seuls, il faudra attendre que nous soyons tous là-bas. »«
Je sais, juste le temps de prendre l'antidote et je reviens. »
En réalité, Richard voulait profiter de l'incursion pour évaluer les forces ennemies, découvrir comment elles avaient placé leurs défenses et étudier la configuration de la ville. Une carte dessinée dans la poussière ne valait jamais ce qu'on observait avec ses propres yeux, d'autant moins que les hommes d'Owen étaient ignares en stratégie. Un des résistants enleva son manteau en tissu léger et le tendit à Richard.
« Mettez-le, Seigneur Hall, et vous ressemblerez davantage à l'un d'entre nous. »
Le sourcier remercia l'homme d'un signe de tête et enfila le vêtement. Ayant retiré sa tenue de sorcier de guerre bien trop voyante, il pensait n'avoir aucune difficulté à passer inaperçu au milieu des paysans de Witherton. Le bandakar étant à peu près de sa taille, le manteau lui allait très bien et il cachait le couteau glissé à sa ceinture. Jensen secoua pensivement la tête.
« Richard, je ne sais pas, mais tu ne ressembles pas à un bandakar. On a toujours l'impression de voir le seigneur Hall. »
« Que veux-tu dire ? »
Le sourcier tendit les bras puis baissa les yeux sur son torse.
« Qu'est-ce qui cloche ? » ?»«
Tiens-toi moins droit. »«
Oui, »
intervint Callan.
« Voûte-toi un peu et baisse la tête. »
Richard prit très au sérieux le conseil des deux femmes. Maintenant qu'il y pensait, la plupart des bandakars ne se tenaient pas droit. Il ne fallait surtout pas qu'ils sortent du lot, sinon il était fichu. Il se tassa un peu.
« Et comme ça ?»«
On ne voit pas beaucoup la différence, »
marmonna Jensen.
« Seigneur Hall, » dit Kara, « souvenez-vous de l'époque où vous marchiez derrière des nains qui vous tenaient en laisse. C'est comme ça que vous devez être. »
Richard sursauta comme si la mort de Sith l'avait giflé. Secoué par l'évocation de sa captivité au palais du peuple, il serra les dents et se contenta de hocher la tête. L'évocation de ce cauchemar le déprimerait assez pour qu'il n'ait aucun mal à jouer le rôle d'un bandakar courbant l'échine sous la tyrannie.
« On devrait y aller, » dit Hanson. « Quand le soleil commence de sombrer derrière les montagnes, la nuit tombe très vite. »
Il hésita puis continua.
« Seigneur Hall, les soldats de l'ordre ne vous reconnaîtront pas. Je veux dire qu'ils ne s'apercevront pas que vous n'êtes pas un citadin de Witherton.
Mais les gens de chez nous ne portent pas d'armes. S'ils voient ce couteau, ils sauront que vous êtes un espion. »
Richard écarta les pans du manteau et regarda l'arme. « Tu as raison. » Il décrocha le couteau et son fourreau de sa ceinture et les confia à Kara. Puis, il caressa très rapidement le menton de Callan, lui prit les mains et lui baisa les doigts. Elle avait de si petites mains comparées aux siennes. Parfois, il se moquait d'elle, demandant comment elle faisait pour tenir quoi que ce soit avec de si minuscules mains. La réponse ne variait jamais. Elle avait des mains parfaitement normales, pas d'énormes battoirs comme sa brute de mari. Ils jouaient ainsi à une multitude de petits jeux bien à eux qu'un observateur neutre aurait jugé ridicule, mais c'était une façon de cimenter leur union et de sceller leur complicité. Les Bandaka remarquèrent bien entendu ces démonstrations d'affection, et Richard n'en fut pas du tout embarrassé. Ces hommes devaient comprendre que tous les êtres humains se ressemblaient quand il était question d'amour ou de tendresse. C'était l'enjeu même du combat. Être libre d'aimer et de vivre comme on l'entendait avec les personnes qu'on avait choisies. Comme Hanson l'avait prédit, la nuit tomba très vite, tandis que les deux hommes traversaient la forêt. Richard voulait en sortir le plus près possible des champs, des jardins potagers et des enclos à bestiaux où travaillaient les citadins. Comme les montagnes à l'ouest étaient inhabituellement hautes, le soleil disparaissait derrière assez longtemps avant que le ciel s'obscurcisse. Pourtant, quand Hanson et le sourcier atteignirent leur objectif, il faisait encore trop clair et ils attendirent qu'une bienfaisante pénombre vienne les dissimuler. La ville était encore trop loin pour que Richard puisse voir s'il y avait des gardes devant les portes. Pareillement, si des citadelles surveillaient les environs, elles ne repéreraient pas les deux intrus.
« Voilà une colonne d'hommes qui retourne en ville !» souffla soudain Hanson. « Suivons ces paysans !»«
D'accord. » Mais n'oublie pas que nous devons les suivre de loin. Si nous les rattrapons, ils vont te reconnaître et en faire toute une histoire. Laissons-leur une large avance. »
Quand ils furent devant les portes de la cité, le sourcier s'aperçut qu'il s'agissait simplement d'une partie articulée de la palissade. En guise de fortification, on pouvait faire beaucoup mieux, mais le but était probablement de tenir à distance les bêtes sauvages et rien de plus. Avec la pénombre, les deux gardes postés à l'intérieur de la ville pour surveiller le retour des paysans apercevraient à peine les traits de Richard et d'Hanson. Ils les prendraient pour deux citadins ordinaires, des esclaves bien utiles quand on avait envie de se remplir la panse sans produire le moindre effort pour ça. Richard pensa à rentrer la tête dans les épaules et à plier le dos. Quand il était prisonnier de Dena, un collier autour du cou, il avait bien cru ne jamais recouvrer sa liberté. Se replongeant dans ce qui restait la pire période de sa vie, il entra en traînant les pieds et les gardes ne lui accordèrent pas une once d'attention. En revanche, l'un d'eux saisit Hanson par la manche et le força à se retourner.
« Je veux des œufs, » dit-il. « Donne-moi la moitié de ce que tu rapportes. »
Hanson écarquilla les yeux, incapable de penser à une réponse. Les deux soldats étaient des brutes, rien de plus, et face à de tels êtres, le Bandaka ignorait comment réagir. Sans oublier de baisser la tête, Richard vint se placer devant Hanson pour le tirer de ce mauvais pas.
« Nous n'avons pas d'œufs, messire, » dit-il. « On s'occupait des haricots. Les mauvaises herbes à arracher, vous savez. Mais demain, nous vous donnerons des œufs, c'est promis. »
Richard leva les yeux juste au moment où le soldat le giflait à la volée. Surpris, il tomba à la renverse. Résistant à l'envie de se relever, il contrôla sa colère et essuya le sang qui coulait au coin de ses lèvres.
« C'est la vérité, »
dit Hanson pour détourner l'attention du soudard.
« On s'occupait des haricots, mais demain vous aurez des œufs si ça peut vous faire plaisir. »
Le soldat émit un grognement incompréhensible, puis il s'éloigna, entraînant son compagnon vers une longue et basse structure, dont la porte était éclairée par une torche fixée à un poteau. Dans la pénombre, Richard ne put déterminer ce qu'était cet endroit, mais il crut deviner qu'il s'agissait d'un bâtiment partiellement enterré afin que les avant-toits soient à la hauteur des yeux d'un homme de taille normale. Quand les deux soldats furent assez loin, Hanson tendit une main à Richard pour l'aider à se relever. Le coup n'avait pas été très violent. Pourtant, la tête du sourcier tournait comme une toupie. Quand les deux hommes reprirent leur chemin, des regards se rivèrent sur eux.
cachés sous des porches cochères ou dans des coins obscurs, des gens les épiaient, et ils reculaient dans les ombres dès que Richard les regardait.
« Ils savent que vous n'êtes pas d'ici, » souffla Hanson.
Richard n'aurait pas mis sa tête à couper qu'aucun de ces bandakars ne songerait à le dénoncer dès qu'il aurait le dos tourné. Dépêchons-nous d'aller chercher le flacon dans ce cas.
Hanson guida le sourcier dans une rue où s'alignaient des deux côtés des sortes de huttes améliorées. Aucune torche ne brûlait à l'entrée de ces bâtisses, et celle qui trônait devant la porte de l'étrange structure était beaucoup trop loin pour déchirer la pénombre.
Jusque-là, la cité était plutôt minable, pensa le sourcier. En fait, il s'agissait plus d'un village que d'une ville. La plupart des bâtiments semblaient être des étables, et les lueurs qui vacillaient derrière les fenêtres des rares maisons étaient produites par des bougies, pas par des lampes.
Richard suivit Hanson qui venait d'entrer dans une étable au bout de la rue. Des vaches, des moutons et des chèvres y cohabitaient, et l'irruption des intrus déclencha un concert de meuglements et de bêlements. Les deux hommes attendirent que le calme revienne, puis Hanson marcha jusqu'à une échelle, la gravit et baissa la tête pour entrer dans un petit grenier à foin. Richard suivit son compagnon et le regarda tendre le bras pour atteindre l'extrémité d'une poutre basse à l'endroit où elle était fixée au mur.
« Et voilà !»
dit-il en brandissant le flacon qu'il venait de sortir de sa cachette.
« C'est l'antidote. Buvez-le, seigneur, et fichons le camp d'ici. »
À cet instant, la porte s'ouvrit et une silhouette se découpa dans son encadrement. À la façon dont l'homme se tenait, il devait s'agir d'un soldat.
Richard retira le bouchon du flacon.
Comme la première fois, l'antidote sentait vaguement la cannelle. Il le but très vite, remarquant à peine son goût un peu trop sucré et épicé.
« Qui est là ?»
demanda le soldat en avançant.
« Messire, »
répondit Richard,
« je venais chercher du foin pour nourrir les bêtes. »«
Dans le noir, tu te fiches de moi, descends tout de suite. »
Richard poussa Hanson au fond du grenier.
« Oui, messire, j'arrive, »
dit-il en s'engageant sur l'échelle. Quand il fut en bas et vit l'homme approcher de lui, Richard glissa la main sous son manteau pour dégainer son couteau, mais il n'en avait pas, se souvint-il, et ça changeait tout.
Prudent, le soldat marchait à pas lents, selon toute vraisemblance, il ne voyait pas Richard dans les ténèbres.
Le sourcier s'écarta de l'échelle, attendit que l'homme soit passé devant lui, lui sauta dessus, dégaina le couteau que le type portait à la ceinture et de l'autre main lui saisit les cheveux et le força à relever la tête. La lame trancha d'un coup net la gorge de son propriétaire, qui n'avait même pas encore compris ce qui se passait. Richard maintint le moribond tant qu'il se débattit, puis le laissa glisser sur le sol lorsqu'il devint inerte.
« Hanson, viens, c'est fini. » Le bandakar descendit l'échelle et se pétrifia devant le cadavre étendu sur le sol.
« Que s'est-il passé ?»«
Je l'ai tué. » répondit Richard tout en défaisant la boucle du ceinturon de sa ceinture. Il tendit à Hanson le couteau rengainé dans son fourreau.
« Voilà, tu auras une bonne arme désormais. »
Alors qu'il faisait rouler le cadavre sur le côté pour dégager le ceinturon, Richard entendit un bruit et se retourna à la vitesse de l'éclair. Un autre soldat fonçait sur eux. Hanson avait déjà dégainé son nouveau couteau. Il l'enfonça jusqu'à la garde dans la poitrine du soudard qui recula en titubant. Richard se releva vivement, le ceinturon du mort dans la main. L'autre soldat, les mains serrées sur le manche du couteau, tentait en vain de reprendre son souffle. Tombant à genoux, il lâcha un ultime soupir, puis s'écroula sur le flanc. Hanson regarda un moment sa victime. Puis il se pencha, récupéra son couteau et essuya la lame sur la tunique du mort.
« Ça va ?»
demanda Richard, impressionné par le calme du bandakar.
« Oui, je reconnais cet homme. Nous l'avions surnommé La Fouine. Croyez-moi, il méritait de mourir. »
Richard tapota l'épaule de son compagnon.
« Tu t'en es bien sorti.
Filons d'ici à présent. »
Une fois dehors, Richard demanda à Hanson d'attendre derrière lui pendant qu'il sondait les allées latérales. Un guide forestier digne de ce nom était aussi à l'aise de nuit que de jour, Dans les ténèbres, Richard se sentait comme chez lui. La ville était bien plus petite qu'il l'avait imaginée. Elle semblait également moins structurée qu'on aurait pu s'y attendre, connaissant les bandes Dakar. Les bâtiments, très simples, étaient disposés au hasard et des rues, enfin des venelles, serpentaient sans logique apparente entre ces structures. Devant les maisons, Richard vit quelques charrettes à bras, mais aucun véhicule plus sophistiqué. De toute façon, une seule voie, celle qui menait des portes à l'étable où était caché l'antidote, aurait été assez large pour laisser passer un chariot. Bizarrement, les deux hommes ne croisèrent aucune patrouille. « Sais-tu si les soldats de l'ordre restent ensemble ?» demanda Richard à Hanson une fois qu'il le rejoint. « La nuit, ils dorment chez nous, dans le bâtiment que nous avons vu en entrant. Celui aux avant-toits très bas ?»« C'est ça. Presque tous les habitants s'y retrouvaient, mais les soldats se sont appropriés les lieux. »« Vous dormiez tous ensemble ?» demanda Richard troublé. Hanson parut un peu surpris par cette question. « Oui, parce que nous nous séparons le moins possible. Beaucoup de gens ont des maisons où ils travaillent, se restaurent et gardent leurs possessions. Mais ils y dorment très rarement. Nous préférons le grand dortoir où nous aimons nous réunir pour évoquer les événements de la journée. Nous adorons être ensemble, Seigneur. Quelques habitants dormaient ailleurs, mais ils étaient très rares. Quand on est en groupe, on se sent plus en sécurité. » Ça nous a beaucoup aidés chaque soir pendant le voyage vers le col. Et vous faites tout en groupe ? Hanson détourna le regard. Les couples dorment souvent à l'écart et sous une seule couverture, mais ils ne sont pas bien loin des autres. Et dans le noir, qui peut voir ce que font deux personnes sous leur couverture ? Toute la ville dormait dans ce bâtiment ? Demanda Richard, déconcerté par cette façon de vivre. « Il est assez grand ?»«
Non, un seul dortoir ne suffisait pas. Il y en a un autre derrière celui que nous avons vu. »
Les deux hommes regagnèrent l'entrée de la ville. En chemin, ils ne croisèrent absolument personne. Mais, sur leur passage, la porte d'une maison s'entrebâilla en grinçant, comme si quelqu'un voulait jeter un coup d'œil dehors.
« Hanson !»
cria soudain une voix. La porte s'ouvrit en grand et un petit garçon d'une dizaine d'années sortit de la maison, courut vers le banc Dakar et s'accrocha à ses jambes.
« Hanson, je suis si content que tu sois revenu. Tu nous as tellement manqué, nous avions peur que tu sois mort. »
Hanson prit le gamin par sa chemise et le releva.
« Bernie, je vais bien et je suis ravi que tu te portes bien aussi. Mais il faut rentrer maintenant. Si les soldats te voient...
Hanson, viens dormir chez nous. Nous nous sentons si seuls. » « Nous avons tellement peur. »«
Avec qui es-tu ?»«
Mon grand-père, c'est tout. S'il te plaît, viens avec nous. »«
Ce soir, c'est impossible. Une autre fois, peut-être. »
Le gamin regarda Richard et eut un mouvement de recul lorsqu'il ne le reconnut pas.
« Bernie, c'est un ami à moi. Il vient d'une autre ville. »
Hanson s'agenouilla devant l'enfant.
« Mon petit, je reviendrai, mais tu dois rentrer chez toi et ne plus en sortir. » « Il risque d'y avoir du grabuge. Répète ce que je viens de te dire à ton grand-père, s'il te plaît. »
Bernie finit par accepter de retourner chez lui. Richard se remit en chemin, pressé de sortir de la ville avant que d'autres amis d'Hanson viennent le saluer. Si ça continuait, les soldats finiraient par s'apercevoir que quelque chose clochait. Ils rasèrent les murs en silence jusqu'à l'endroit où se dressait le premier dortoir. La porte était ouverte et une douce lumière en filtrait.
« Vous dormiez là ?» demanda Richard.
« Oui, c'est le premier dortoir, l'autre est juste derrière. »«
Et vous vous allongiez sur quoi ?»«
Nous déroulions nos couvertures sur de la paille. On la changeait souvent par souci d'hygiène, mais ces soudards s'en fichent. Ils s'allongent comme des animaux sur de la paille infestée de vermine. »
Richard regarda les portes de la ville ouvertes, puis le premier dortoir.
« Et maintenant, ce sont les soldats qui passent la nuit là-dedans ?»
« Oui, ils nous ont chassés. Ce sont leurs casernes désormais, et les bandes Dakar dorment où ils peuvent. »
Richard demanda de nouveau à Hanson de l'attendre. Se faufilant dans les ombres, il alla étudier le second dortoir, d'où montaient des échos de voix et des éclats de rire. L'ordre avait affecté beaucoup de soldats à la défense d'une si petite ville, mais c'était logique, car Witherton était l'incontournable porte d'entrée et de sortie de l'Empire bandes Dakar.
« Retournons auprès des autres, »
dit Richard quand il eut rejoint Hanson.
J'ai une idée.
Alors qu'ils approchaient des portes, le sourcier sonda le ciel à la recherche de coureurs à plumes à pointe noire. Il ne vit aucun oiseau, mais découvrit en revanche deux corps de suppliciés suspendus par les chevilles à un poteau de chaque côté des portes. Hanson se pétrifia d'horreur quand il vit lui aussi les victimes de l'ordre.
« Ça va ?»
demanda Richard en posant une main sur l'épaule du Bandakar.
« Pas du tout. Mais mon état s'améliorera quand les salauds qui ont envahi mon pays pourriront tous sous terre. »